Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 27 février 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la cérémonie de la critique des Césars que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Ton style de BD est vachement radical. c'est-à-dire.
Tu ne sais pas dessiner quoi.
Non, ça c'est toi qui l'as dit. C'est...
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Moi je dis que du sport, il est un jour je vais ligoter quand il passera chez moi et il sera obligé de me réenregistrer des voix off. C'est pas tenable, JB n'est jamais là.
Ah bah écoute, alors tu... Bah je sais pas, tu sais des apathés avec... par ici le bon petit DVD, par ici la comédie musicale, par ici Bollywood.
Oui, ça a tenté. L'extrait de l'interview que vous avez écouté la semaine dernière, c'était encore un mec de No Life. On est désolé, c'est vrai, c'est l'overdose. Puisque c'était Davy Mourier de l'émission Road Strip, qui est le samedi à midi donc... qui commence maintenant. Mais plus sur No Life maintenant, il est sur la chaîne Gong.
Mais c'est pas un mec de No Life, c'est un mec d'Ankama.
Oui, aussi. et c'est vrai que la semaine dernière, on a été très tenté de lui poser la question. En tant qu'à la fois auteur de BD et en tant que producteur, réalisateur, présentateur d'une émission critique sur la bande dessinée, c'était trop tentant de faire une interview double jeu, jugé parti. Vous pouvez le réécouter sur le site suppléantweekend.fr. Si vous allez dans nos chroniques, il y a un lien qu'on a rajouté ce matin parce qu'on était mort de rire quand on a lu ça il y a 2-3 jours. C'est le site fluctua.net qui est un site critique, un peu comme nous, plus axé généraliste, musique, ciné, livres, jeux vidéo, société, art et tout le reste. Et dans la rubrique cinéma, ils ont fait Damien L. A fait un excellent prévisionnel, une sorte de météo des Césars de ce soir.
Oui, donc en fait c'est une espèce de prévision sur comment la cérémonie va se dérouler, donc les différentes interventions de la maîtresse de cérémonie, des présentateurs, des sourires gênés, des sketchs qui pourraient avoir lieu en fonction de l'actualité, et c'est vrai que c'est extrêmement réaliste, on va dire.
Et c'est très 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 bien écrit, parce que c'est, on a l'impression un peu justement de lire le genre de délire que faisait Technicart, qu'aurait pu écrire Technicart, parce que c'est vraiment très précis, à la fois dans le minutage, dans les incidents, dans les gênes et dans les raisons politiques. C'est à pleurer de rire, notamment les interventions de Dubosc sont à pleurer.
Oui,
qu'elles sont hilarantes.
Les sketchs de Gad Elmaleh et Valérie Le Mercier déguisés en Avis en train de copuler avec leurs 13 USB sur scène, juste avant de balancer des blagues vaseuses sur Roman Polanski et les minarets suisses.
Et le César du meilleur film étranger est remis à Slumdog Millionnaire, venu chercher le trophée. Le distributeur français affirme que Danny Boyle sera ravi d'apprendre qu'il a décroché un César 12 mois après les 8 Oscars raflés à Hollywood. C'est d'une violence, ce texte est absolument génial. Pour ceux qui nous écoutent en direct, allez sur suppléantweekend.fr, vous cliquez dans nos chroniques et vous cliquez sur César 2010, le scénario cauchemar. Et pour ceux qui ont vu la cérémonie et qui écoutent l'émission avec un peu de retard, parce qu'à mon avis elle sera en ligne dimanche, je suis vraiment désolé, c'est un grand moment de fou rire. On n'a pas besoin de regarder les Césars, ça tombe bien, je crois que ce soir-là TF1 a peut-être, je pense que je me tourne vers du sport puisque c'est lui qui a le programme télé en général, je pense que TF1 ce soir il y a un bêtisier, un truc à la con.
Non, c'est la grande soirée de l'étrange.
Oui, donc un bêtisier, effectivement.
Patrice Carmouze et son acolyte.
Incroyable expérience sur la 2.
Oui.
Bref.
Il y a Terres Indiennes hein, sur Arte, là, la suite, à la fin du documentaire qui est pas mal. Hein.
Non, il y a mieux.
Ce soir, il y a Geronimo.
Il y a une grande expérience. Il y a des échos. Une semaine pour tout changer. Bref, que des bonnes raisons pour ne pas regarder la télé ce soir ou de suivre le programme cinéma de ce soir. Ce sera du sport tout à l'heure vers. On va essayer de tenir 13h45 puisque. Il va quand même parler de sport. Hein. On est en plein JO d'Albertville,
hein.
J'allais dire.
À Nagano.
À Nagano.
C'est la fin.
Et t'as encore oublié de faire ta chronique sur Sarah McLachlan, je
parlais. Ouais.
D'accord.
Non mais
ne compte pas repasser manger chez nous. Hein,
non mais pour les prochaines Olympiades, ce sera l'anniversaire, je pense.
Au Canada. Va falloir courir là pour qu'il y ait des.
Non mais les prochains, ce sera en Russie. Donc dans 4 ans, s'il y a toujours ce moment en week-end, tu pourras faire la chronique.
Oui, d'accord, ok.
Alors ne pas rire parce qu'en fait j'ai ouvert la boîte aux lettres en partant à l'émission, donc il y a moins de 10 minutes. Le psychopathe numéro 218 de mars 2010 est arrivé, 4,50€ sans pub en kiosque et c'est un spécial journaliste. On parlera tout à l'heure des journalistes en Félix ou le grand nom qui est vraiment, enfin là franchement point de vue BD. On vous a concocté un superbe programme, donc c'est un vrai bonheur. Donc les journalistes, c'est assez brutal et violent, ça tombe bien, ça va être assez fun, je sens, à lire. En dédicace aujourd'hui, il y a Serge Carrère qui dessine le scénario de Christophe Arleston, le dernier Léo Loden, qui s'appelle Speculos, à la plancha qu'on a parlé il y a 3 semaines, c'était en débrief du festival d'Angoulême, puisque ça se passe en franco-belgique, c'est-à-dire entre Angoulême et Bruxelles. Je rappelle que Léo Loden est un flic marseillais et que Serge Carrère est toulousain. Donc voilà, pas de contradiction. Et il y a un article là-dessus dans La Dépêche aujourd'hui. Merci, Duce. Il est en dédicace tout à l'heure à la FNAC, à mon avis, à partir de 15h. Samedi 6 mars, Benoît Delac, on en a parlé, c'est le dessinateur des Princes d'Ambre. Il sera donc en dédicace à la librairie Album le samedi 6 à partir de 15h. Ça va, je vais revenir. Non, je ne l'ai pas publié, d'accord, ok. Petite erreur de ma part hein, sur les chroniques. Donc les Princes d'Ambre, donc le premier tome est sorti, c'est chez Soleil. C'est donc une adaptation en bande dessinée la fameuse saga de SF Fantasy. Le vendredi 12, Gianni Jacopi qui dessine Le Roi Invisible, c'est sorti au Futuropolis et Claude de la librairie Album a dit putain, il est monstrueux. Et qui et Marne Guessant, alors Gianni Jacopi et Marne Guessant ont fait ensemble Jour de Grâce qui est sorti chez Dupuis. Ils seront en dédicace ensemble vendredi 12 mars chez Album. Le samedi 13, ce sera les rendez-vous bande dessinée à l'ENSET, à l'école d'ingénieurs. Donc ça, on en reparlera. Samedi prochain, là-dessus, on aura le programme et tous les éléments. Là, ça risque d'être un petit peu court. Et le 10 et 11 avril, il y aura la spéciale mangas dans le supplément week-end parce que ce sera le week-end du Toulouse Game Show au Wanami.
Allez, tu vas le dire. Vas-y.
Du TGS Wanami, donc le Toulouse Game Show qui fait un spin-off plus consacré autour de la culture japonaise pure et dure. Donc ça, on en reparlera à cette occasion. Là, ce sera donc le 10 et 11 avril et ce sera toujours d'ailleurs lieu habituel.
Où ça alors ?
À la beige.
Bien.
Voilà, je vais y arriver.
L'espace Diagora.
Diagora, voilà. Et c'est Thomas qui balance la première BD.
Bah tiens, à la gueule.
Ah putain.
Alors on commence par je regarde le conducteur par Havre.
Merci.
Alors Havre, ça. Allez, de la BD post-apo pour changer. Après les films, maintenant c'est la BD. Alors une catastrophe d'origine inconnue a dévasté la surface de la Terre et seule une poignée d'humains continue de survivre. Alors au cœur des vestiges d'une ville perdue dans le désert, le nécromancien tente de continuer une vie d'apparence normale en réanimant les cadavres et alimentant la cité en électricité. Mais
sympa.
Ouais, le gars il se fait plaisir, il est tout seul, bon il essaie de continuer à vivre une vie comme avant, mais bon. Mais bientôt surgit du désert la sorcière. C'est une empathe pouvant détecter les émotions des autres. Et ensemble, ils partent vers le sud et un village dirigé par le pistolero. Mais ses habitants semblent attendre des nouveaux venus, quelque chose de précis. Et qui va manipuler qui, ça, vous le découvrirez dans la BD. Alors, le point fort de la BD, c'est le scénario, puisque c'est super tendu, t'as le duo de protagonistes est assez intéressant, puisque le gars, c'est quelqu'un qui peut faire revivre des morts, enfin, les animer, alimenter en électricité, donc c'est quelqu'un quand même qui a un fond de bonté, qui est presque trop naïf, qui va toujours détecter l'aspect positif chez les gens, alors que l'empathe, justement, c'est une nana qui a eu quelques démêlés avec les autres quand, dans un certain passé qui est évoqué à travers des flashbacks, mais pour l'instant, là, c'est, le scénario n'en dit pas trop. Et elle, par contre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vouloir se protéger des gens, un trop plein d'émotions peut lui faire perdre la tête, elle aime pas trop se mélanger aux autres, donc du coup, ça fait un contrepoint intéressant entre les deux. Au niveau du graphisme, on va dire que les scènes dialoguées, les planches, la plupart des planches sont... C'est pas pour le dessin qu'on va l'avoir, même si justement les...
Quand même, je trouve que le dessin le fait plutôt bien.
Ouais.
Avec un côté faussement gay, je vais dire, dans la manière de faire le dessin, et en même temps un travail sur les couleurs, c'est-à-dire il y a vraiment un travail d'ambiance colorimétrique sur chacune des scènes. C'est très agréable, hein, moi je
trouve. Oui, avec les effets d'ombre des feuilles quand ils sont sous des arbres et tout, ça c'est assez élaboré, mais par contre, ouais, moi c'est le cerné que j'aime pas trop. Par contre, après, là où la dessinatrice te fait plaisir, c'est vraiment quand visuellement elle arrive à traduire l'état intérieur de l'empathe, où vraiment elle se fait plaisir au niveau de l'expressivité du trait, c'est vraiment de la peinture qui change, et ça marque vraiment une rupture avec le reste des planches, et moi j'aime bien. Le premier tome se clôt sur un cliffhanger sous tension, c'est-à-dire que... Ah, ouh, d'accord, je crois que je l'ai marqué, mais il faut que je relise mes notes, je crois que c'est... Oui, c'est une trilogie, donc le prochain tome s'appellera le Pistolero, donc c'est le gars qu'ils ont rencontré dans le fameux village. Bon, alors ce qui marque aussi dans la BD, je terminerai là-dessus, c'est que il n'y en a aucun, on va dire, qui est à 100% gentil dans un monde post-apocalyptique. En fait, chacun a ses failles et chacun essaie de rouler aussi pour sa bosse. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ça, on verra après dans les prochains tomes, parce que je pense que le nécromancien n'est pas pur non plus. Alors on va voir. Bon, Havre, tome 1, premier tome d'une trilogie, c'est édité chez Ankama, et donc le premier tome s'appelle La Sorcière et le Nécromancien, c'est par Botian et Hoth.
Et j'ai l'impression qu'il sera beaucoup question de huis clos dans les villages, parce que là on parle, tu vas voir, dans Havre, dans Le Village et dans Félix ou le Grand.
Ah,
ça fait petite collusion.
Nous serions nous concertés avant?
Non.
Même pas.
J'aurais pu mettre une ambiance rock'n'roll pour la suite, voire même le fameux morceau, mais...
Oui, oui, bah, le
non,
morceau...
j'ai voulu ça aujourd'hui.
D'accord. Alors, on enchaîne avec The Baser, tome 3. Donc, vous avez parlé déjà des deux premiers tomes...
Et surtout, on avait interviewé Raph.
Aussi, oui, à la Japan Expo 2008. Et alors là, c'est vraiment... elle se lâche de plus en plus. Tu avais l'impression déjà qu'elle se lâchait déjà dans le tome 1. Mais là, c'est jusqu'au boutiste. Alors là, dans ce tome 3... Donc le tome 3 est placé sous le signe du buzz, hein, un terme vachement d'actualité avec les réseaux sociaux, tout ça. Alors, que faire justement pour parler de soi quand on crée un groupe de rock sans le soutien officiel des grands médias? Alors il n'existe qu'un moyen, c'est affronter la multinationale mondiale avec ses propres armes, dans une bataille sanglante.
C'est quand même un peu dangereux de monter un groupe de rock indépendant alors qu'on a voté la loi Hadopi, c'est impensable.
Oui, tout à fait. Ben, tu crois pas si bien dire, puisque il est aussi question de la loi Hadopi dans ce...
Ouais, mais ça a marqué un petit peu tout le monde. Et encore, on n'a pas suffisamment parlé de la Hadopi, mais... ou encore de l'ACTA, le fameux pacte secret entre l'Europe, les États-Unis et le Japon. Ça aussi, ça commence à faire du bruit depuis cette semaine.
Alors voilà, c'est une bataille sanglante entre le petit groupe d'amateurs un peu bras cassés, puisque faut rappeler que le petit groupe il est constitué d'un dessinateur foireux qui voulait recopier des mangas au départ, mais qui s'est improvisé guitariste, une intello qui s'improvise chanteuse, et un obsédé sexuel qui est le batteur de l'équipe. Alors bon, visuellement, la série c'est un festival de tronches complètement déstructurées, de travers. Alors il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait une seule case dans la BD où ils sont dessinés normalement. Ils sont tous soit énervés, soit ils se prennent des décharges électriques dans le cul, soit ils montrent leur partie génitale à la caméra. Enfin c'est que des trucs comme ça. Alors là franchement tu te poiles, en plus il y a des petits gags en une planche. Oui.
Pour faire la
jonction entre les chapitres. Alors c'est des petites anecdotes concernant le pouvoir en place. Alors c'est pas il s'appelle pas Nicolas, mais c'est notre président avec plein de Rolex à chaque bras, et il est très petit et il essaie de camoufler les affres si tu veux de la production musicale, parce que les patrons des majors ils sont trop feignants pour essayer de bosser pour rendre attractif leur musique qui est de la soupe. Donc du coup ils vont se venger sur les téléchargeurs, sur les pirates, en disant il y a une phrase d'ailleurs, je crois c'est nous résolvons vos problèmes en les rendant illégaux.
Et c'est pas mal, oui.
Voilà, c'est super engagé. C'est la baston entre les petits contestataires qui disent ah non, on veut notre liberté de penser, avec la foule qui est complètement, qui peut être manipulée à souhait. C'est des gros crétins en fait. Et t'as aussi les arrangeurs musicaux de la firme mondiale qui sont super forts aussi, mais plus dans la musique classique. Mais c'est fou ce qu'on peut faire avec un violon quand t'as des pouvoirs et tout. Donc je vous en dis pas plus. Vous me dites quoi ?
TV1, investigation jusqu'au bout du terroir. Infomercial en continu, les news de l'Elysée. Avec nos reporters de choc, Jean Mignon et Kimberley. Kimberley a des.
Ah oui,
c'est au-delà du ballon de foot, là. C'est carrément le ballon de basket. Bah
là, c'est une société dans le futur où, en 2020, où les nanas, en fait, pour exister, elles n'ont pas droit à la culture, il faut juste qu'elles se fassent refaire les seins. Donc, généralement.
Oui, parce que c'est dans le premier tome, voilà, c'est remboursé.
C'est expliqué. Donc voilà, donc The Baser tome 3, t'as les yeux qui piquent à la force parce que ça part dans tous les sens, mais c'est au format manga, donc c'est avec des trames, avec du niveau de gris, du noir, c'est vraiment les codes manga, mais c'est vraiment super déstructuré, c'est expressif, c'est complètement rock'n'roll, voilà, la nana se fait plaisir et à écouter bien sûr avec The Baser dans le casque des Pixies. Donc voilà, The Baser tome 3 pour l'instant
pédoriste. Ah ouais, non mais il y a des trucs dans tous les sens.
Voilà, donc tome 3 dessine et scénarisé par Raph, et c'est chez Ankama toujours, et puis on recommence cette petite série
franchement
sympa.
Et dans l'idée un peu qu'avait lancé je crois que c'est Kana hein, qui avait lancé ça en France, parce que c'est vrai que ça se fait énormément au Japon, où en fait à la fin des bouquins il y a une place pour les dessins de fans, et putain il y en a qui assurent hein.
Alors c'est pas que des dessins de fans, puisque c'est la tradition chez Ankama, après chaque à la fin de chaque bouquin il y a toujours les petits copains illustrateurs et graphistes qui font dans les pages bonus, ils mettent des cadeaux, des fanarts, donc voilà, c'est pas que des amateurs en tout cas qui sont à la fin.
En tout cas, c'est vraiment sympa. Midi 17, c'est le supplément week-end numéro 229. Sur Radio FMR. Alors ça c'est un bouquin qui risque de beaucoup 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 plaire à du sport. Le Village, le tome 2, Rockstar, scénarisé par Rodolphe, dessiné par Bertrand Marshall comme pour le premier tome, et c'est toujours dans la collection Focus chez Bamboo Édition. Et je vais revenir d'abord sur cette petite surprise de l'été 1964 qui était venue de Cambridge. Je parle bien sûr du groupe de rock Les Strolls, qui commence à bien monter quand même dans les charts et dans les airplays. Leur premier album pourrait bien avoir un succès autant critique que public et leur assurer une place entre les Beatles, qui commencent quand même à bien se faire connaître, et Rolling Stones. Pete Simpson, le chanteur, est brillant techniquement, musicalement aussi, mais il vit aussi de manière rock and roll entre filles et beuveries. Ça fait toujours plaisir à la fois à la presse musicale comme NME et tout ça, et surtout les tabloïds, bien évidemment. Alors quand il disparaît dans la nuit londonienne, tout le monde pense à un caprice de star. De la fille qu'il a rencontrée ce soir-là, il ne se souvient pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il se réveille dans une station balnéaire au bord d'un grand lac. Et un étrange couple de mods débarque dans sa chambre, Pop et Popa, pour lui souhaiter la bienvenue dans le village. Alors le premier tome du village, l'ingénieur, nous avait agréablement surpris en tant que bel hommage à la série Le Prisonnier. série culte anglaise de la fin des années 60, hein, il faut rappeler, puisqu'elle est tournée en 67.
C'est pas les années 60, c'est un truc super moderne là, qui passe sur Canal.
Ouais, bon, ça on y reviendra après. Sauf que c'est côté soviétique, c'est-à-dire que c'est pas côté Angleterre ou États-Unis, mais côté bloc de l'Est. Un univers gentillé avec de propres maisons qui servent de cadre luxueux à des tortures mentales. Le deuxième tome va encore plus loin quand on se demande très vite en quoi l'espionnage est lié au destin d'un groupe de rock anglais des années 60. Pourquoi Peter Simpson intéresse tant que ça le bloc de l'Est au point d'être kidnappé à Londres et emprisonné dans cet étrange village en pleine Russie ? Rodolphe mène bien sa barque, montre qu'il est loin justement de la décalque de la célébrissime série, mais montre qu'il intègre avec respect sa culture de l'Angleterre des années 60. Tout y passe. Les influences de la musique pop, les modes mais vestimentaires et le milieu du showbiz dans le swinging London des années 60. Le Village est une excellente série d'espionnage, teintée dans le vintage. Les codes et les références jouent avec la culture du lecteur sans être complètement obscur justement pour la personne qui ne connaît pas. Le Village, le tome 2 s'appelle Rockstar, c'est de Rodolphe et Bertrand Marshall au dessin, c'est dans la collection Focus chez Bambou Édition. J'arrive pas à le retrouver, mais sur le site de l'agence 8e Art City, qui est une agence de consulting auprès des entreprises, auprès des chaînes, auprès des producteurs et auprès des annonceurs autour des séries télé, c'est tenu par Alain Carazé, hein, qui est pas n'importe qui est extrêmement connu dans le milieu de la série. Je crois même qu'il a joué dans une série, je crois que c'était dans Nerds. Il a un de ses collègues de boulot qui a fait dans le blog vidéo un article sur le premier remake du Prisonnier qui a été fait non pas en 2009, mais en 1969, puisqu'il s'agit d'un roman qui est chez Présence du Futur. Donc il n'est pas trouvable par contre en librairie, il n'est plus édité, mais il dit que ça se trouve facilement dans les trucs d'occasion. Donc je pense que du sport lui il fait la moue, peut-être qu'il a lu.
Non pas du tout. Bon, c'est vrai que si tu fouilles bien quoi, tu peux trouver ce genre de bouquin sans problème quoi.
Parce que à ce qui paraît
faut chercher quoi.
Il faut chercher, surtout ce qui est très étonnant c'est c'est qu'apparemment c'est lié à la série télé, puisque la série télé en fait arrive à être une sorte de spin-off du roman. C'est très fort. Et en fait la série télé a été tournée par Le Village.
Ah.
Ça je demande à voir quand même. Totalement autre chose avec Christian Durieux au scénario et Bruno Vessel au dessin. Félix ou le grand nom, c'est un one-shot qui est sorti chez Quadrant, c'est-à-dire c'est distribué par Soleil. Et faudrait parler du vieux Félix. Le vieux Félix, tout le monde connaît, il vivait reclus dans sa maison sur la place du village, du moins. Parce que c'est récents événements, il sort pratiquement jamais, personne lui connaît de famille ou même se souvient quel métier il a exercé. Il a toujours fait partie du village. C'est un peu l'âme invisible du village. Et en fait, voilà qu'un jour, il sort de chez lui avec un large pinceau et de la peinture rose. Et devant ses voisins stupéfaits, il peint un grand cercle au croisement des deux grandes rues qui sont devant chez lui. Et va sortir ses meubles et les mettre dans ce cercle. Alors quand quelqu'un va lui proposer gentiment de l'aider en lui disant « T'es un peu vieux, tu vas te péter le bassin, attends, je vais t'aider », il répond agressivement avec son fusil, barre le passage des deux routes et proclame que désormais, il est chez lui, dans ce cercle. Il vient de déclarer la guerre à la connerie et n'accepte personne dans son nouveau chez-soi, si ce n'est Jérémy le brave facteur. Et là, une équipe télé arrive. On est à la veille des présidentielles, la majorité au pouvoir n'est pas dans une posture favorable. Le président Blondiot promet sans conviction que son bilan montre que les promesses passées vont s'accomplir lors de son deuxième mandat si la nation lui prête vie. Et les autres candidats s'en donnent à cœur joie sur ce bilan en demi-teinte, surtout démarré qui bat la campagne, grappille de précieux pourcentages d'intention de vote pour s'assurer d'être au second tour. La petite crise de Félix va faire du bruit. Alors depuis 15 ans, la communication a pris le pas sur la politique et le battage médiatique sur l'information. Et l'arrivée d'Internet a bouleversé ce mode de transmission. Ce ne sont plus les médias nationaux, seuls autorisés, qui font l'information, mais Internet via YouTube, qui a sorti à la petite chose qui permet d'éclairer et d'en apprendre un petit peu plus. Ce n'est plus l'homme politique qui mobilise et interpelle, mais un retraité en colère. Tout le monde est pris au dépourvu et se prend au dépourvu. Les politiques récupèrent le coup de gueule de Félix et dès qu'ils l'ont compris, ils sont du même avis que lui, alors qu'aucune déclaration n'a été faite par le père Félix, en fait, quand on y réfléchit. Mais ces effets d'annonce risquent d'amener justement de sérieux retours. Christian Durieux prend un pari d'écriture assez osé, c'est le montage documentaire avec interview des protagonistes en plan de coupe, où ils expliquent, à ce moment-là, voilà ce qu'on pensait, voilà ce qui se passait, et voilà ce qu'ils pouvaient augurer. Un tel montage qui permet à la fois de faire avancer l'histoire et de révéler la situation, les relations entre les différentes personnalités publiques. Alors en fait, coup de gueule de Félix me fait penser à un film peu connu de Sidney Lumet en 1976 qui a eu 4 Oscars. Il est diffusé qu'une fois en France à la télévision, c'était sur Arte. Il s'agit de Network, où un présentateur de journal télévisé pète un câble, envoie tout valdiguer en plein direct et dit ses 4 vérités. Man, alors la chaîne qui était sur la pente descendante profite de sa crise pour récupérer son coup d'éclat afin de remonter son audience. Sauf que Félix n'explique pas ce qui l'énerve quand il trace son rond, ne menace pas de suicide ou de meurtre et finalement privatise un bout de rue. Reste la question, à quoi bon gueuler ? Alors évidemment, j'ai vu Dusport et Thomas faire « Oh, mais Network, on connaît par cœur. » Non ?
Oui. Non, mais bon, quand tu dis que c'est passé une seule fois à la chaîne, à la télé française sur Arte, bon, permets-moi de douter.
J'ai pas réussi à trouver d'autres traces sur justement les sites qui recensent ça. Donc j'ai pas eu l'impression que ça a été diffusé très régulièrement.
Non, c'est pas un film grand côté, spectacle, on va dire. Hein, donc,
à côté On Air où tout le monde joue de l'oreillette et tout ça, on l'a vu beaucoup plus souvent à la télé, tu vois.
Oui, sur de même toute façon, hein, mais bon, comme c'est un film qui date des années 70, hein, disons, l'info était traitée de manière tout à fait différente à l'époque. Et Lumet a toujours fait ce genre de film, hein, de toute façon, pour dénoncer les failles d'un certain système. Lumet était plus axé, à dire, sur les films, c'est lui qui fait 12 hommes en colère aussi, hein, c'est-à-dire le oui, système judiciaire. Lui, il est plutôt dans ce genre de trucs-là. Là, c'est dû aussi à l'interprétation excellente, hein, des différents acteurs et actrices, puisqu'il y a Faye Dunaway dedans.
Mmh. Ah. et c'est assez hilarant, hein. c'est assez brutal comme film.
C'est film assez choc quand même. Ça n'a pas été un grand succès, hein, de toute façon, parce que justement c'est un film qui dénonce, et donc l'autre côté de l'Atlantique, on n'aime pas tellement ce genre de film, justement on n'aime pas le mélange des genres, hein, savoir faire un film qui est plus ou moins soi-disant grand public et en même temps qui essaie de dénoncer quelque chose.
C'était le propre des films des années 70, de
c'est un peu le problème. C'est que le nom du film est assez explicite. Il parle de network, c'est-à-dire des chaînes en tant que réseau aux États-Unis. C'est une culture qu'on n'a pas en France, c'est-à-dire que tu as que toutes les chaînes seraient un peu comme France 3.
Ouais. Et si tu te rappelles bien, si tu regardes le logo de la chaîne
UBS, hein, si je me souviens bien, ouais.
Le logo ressemble étrangement à un des grands majors américains.
Alors il y a une histoire derrière. C'est parce que justement ils avaient retoqué le projet, finalement ça a été produit par Warner et les scénaristes sont foutus de la gueule et les questions de Universal qui proposent des projets de séries justement à cette chaîne de télé complètement déhérents, où ils se foutent de la gueule de leur ancien producteur. Hein. La fiche Wikipédia est très bien foutue. Si vous cherchez Network, d'ailleurs, il y a une fiche française. Je viens de tomber dessus. J'ai lu les dossiers anglais pour remettre dans le contexte. Donc voilà, c'est assez amusant. Si vous avez l'occasion de tomber sur le film, il est assez fun. Hein. Donc voilà. Et pour en revenir à la BD, Christian Durieux et Bruno Wessel, Félix ou le Grand Nom, c'est un one-shot chez Quadrant. Et en pleine période électorale, c'est assez fun à lire, je veux dire. Personne n'a rajouté quelque chose, non ?
Moi j'aime bien le trait au crayon, avec le crayon bien épais, bien gras. Ça me rappelle le dessin de Ali Mahmoudi un peu. Enfin, dans un autre registre bien sûr, mais au niveau de l'utilisation du crayon.
Non, mais c'est pas mal parce qu'il y a des cases où tu te dis, bon, ça fait plus brouillon, genre pas fini. genre ah j'ai oublié de gommer certains traits et tout, surtout dans les
il est très fort dans les visages,
dans les arrière les arrière-plans qui sont les espèces de gros traits mal foutus qui ouais, représentent rough, plus ou moins les ombrages et tout, qui vont vraiment c'est du rough mais rough quoi. C'est,
Je sens que ça va plaire. 12h30 pile poil la pub.
Qui sera la nouvelle star de la région Midi-Pyrénées? C'est ce que vous découvrirez sur Radio FMR. Nous vous réservons une série d'entretiens pointus avec les têtes de liste de tous les partis présents dans la prochaine élection régionale du 14 et 21 mars en Midi-Pyrénées. Une semaine spéciale élection régionale du 8 au 12 mars vous permettra d'entendre ou de réentendre tous ces entretiens sur le créneau 11h-12h. Restez connectés sur Radio FMR ou sur le site www.radio-fmr.net.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends ?
D'accord, super. Bah oui, faut pas laisser des blancs comme ça en fin de truc. Vous êtes nuls, on peut pas passer le jingle de fin de pub. Attends.
Try to remember when life was so tender and happy. FMR 89.1 MHz.
Avec du quota français Ben Mazoué.
Entendu, on a plus le temps de vibrer, plus le temps d'espérer, plus le temps d'y croire. On est même plus déçu. Génération chute et tu crèves cruel. Et si t'aimes pas d'autres systèmes, on n'en a pas connu. La déchéance des valeurs du partage et en friche un message depuis 30 ans. Soyez plus riches, il a fallu reculer sur les droits. Baissez les yeux parce que déjà on est lotis comme des nantis. Et paraît-il que c'est pas ça la vie, non. La vie s'est taffée comme un dingue, la vie s'est fumée ta santé. La vie c'est comme courir après un flingue. Y'avait plus de but avec écrit ensemble dessus. Le 4 novembre, c'est l'espoir que j'ai revu. Le premier homme sur la lune, j'étais pas là. La première femme dans les yeux, j'étais pas là. Pour aller libérer la Bastille, j'étais pas là. Mais le 4 novembre et j'en vibre, j'étais en vie. Un engouement très partagé, la raison souvent pour certains de cacher. L'envie profonde d'y croire, ils disent que rassembler, c'est les discours en entonnoir qu'à force de plaire. Il a fallu faire le grand écart, moi j'ai conclu que non. Que l'engagement paraissait digne et l'homme de conviction. Espérons, maintenant, espérons. Mais fallait lui pour qu'on puisse se le permettre. Fallait son élection pour que les sceptiques aillent se faire mettre. Le premier homme sur la lune, j'étais pas là. La première femme dans les yeux, j'étais pas là. Pour aller libérer la Bastille, j'étais pas là. Mais le 4 novembre et j'en vibre, j'étais en vie. Je préfère me cramponner à l'idée qu'on peut tous mes doigts recroquevillés au fond de ma paume, à l'idée qu'on peut vivre et qu'on peut se dire qu'il y a deux trois trucs mieux au milieu de la tonne de soucis. Il a pas gagné avec la crainte et la peur du voisin, mais avec l'idée qu'on peut. Et moi c'est ça que je retiens, l'idée qu'on peut. Il fallait lui pour qu'on puisse se le permettre. Fallait son élection pour que les sceptiques aillent se faire mettre. Le premier homme sur la lune, j'étais pas là. La première femme dans les urnes, j'étais pas là. Pour aller libérer la Bastille, j'étais pas là. Mais le 4 novembre et j'en vibre, j'étais en vie. Le premier homme sur la lune, j'étais pas là. La première femme dans les yeux, j'étais pas là. Pour aller libérer la Bastille, j'étais pas là. Voilà. Mais le 4 novembre et j'en vibre.
Obama par Ben Mazoué sur la compilation du Fer 2010 dont la radio est bien évidemment partenaire. Vous écoutez FMR, c'est le supplément week-end numéro 229. Oui, pour changer un peu le sketch.
Allez, on va parler du moment aujourd'hui. Alors, il s'agit du film, d'un film qui n'est plus à l'affiche. Alors, d'habitude, on dit « Ah, mais on ne sait pas s'il est encore à l'affiche. » Bon, là, c'est sûr, il n'y est plus. Bah, j'ai vérifié. Hein,
cette bah ouais, on vient de vérifier, là. Hein.
Voilà. Alors, donc, il s'agit de Mother. Donc, c'est un film sud-coréen de Bong Joon-ho. Avec Won Bin et Kim Ye-ja. Alors, excusez-moi pour la prononciation, les coréanophiles au phone. Alors, Bong Joon-ho, c'est le gars qui avait fait The Host et Memories of Murder, et aussi qui avait participé au film collectif Tokyo avec Leo Carax. Et le troisième, je ne sais plus qui c'était.
D'accord.
Alors, Mother, à 28 ans, Do-jun est un gentil garçon, mais un peu limité, et, enfin, on va dire qu'il est presque débile, en tout cas. Alors, heureusement pour lui, il est élevé par sa mère veuve, pour qui il est la seule raison d'être. Elle est très protectrice. Et un jour, une lycéenne est retrouvée morte au sommet d'une maison, et tout semble accuser Do-jun, qui est emprisonné illico presto par la police. Sa mère va mener l'enquête à la place d'une police dépassée, ayant rapidement clôturé l'enquête. Voilà, donc ça c'est le pitch. Alors déjà, le rapport entre la mère et le fils, tu vois que la mère, elle essaie de subvenir aux besoins des deux, elle continue à faire de l'acupuncture au black, ils dorment dans le même lit, alors comment ce truc bon, c'est en tout bien tout honneur, mais bon, c'est vrai qu'elle a pas coupé le cordon, et le fils, bah lui, il est un peu simplé, alors bon, lui, c'est pas lui qui a demandé, hein. Bong Joon-ho, dans Memories of Murder, c'était un polar vraiment qui te sciait les jambes d'après un fait réel, hein, des années 80, l'histoire d'un serial killer qui avait jamais été arrêté, et ensuite il se frotte, coup d'éclat, hein, c'est bon, cinéma coréen, comme caricaturé dans la chanson de Renaud, hein, les bobos aiment le cinéma coréen. Alors Memories of Murder, ça avait été la claque. Ensuite le gars il dit bon allez, je vais m'attaquer au film de monstre, hein, donc il fait The Host. Alors, à la fois, film de monstre super réussi, chronique sociale d'une famille en perdition. C'est le film, il joue sur plusieurs registres, encore un coup d'éclat. Bon, le gars, ça va. Et là, il s'attaque à Mother, donc... par contre, c'est plus du tout... Il continue dans la veine du thriller polar un petit peu, mais c'est plutôt une plongée dans la psychologie d'une mère, en fait, où c'est vraiment incarné par une actrice de 70 ans qui, d'après mes informations, a été rompue au rôle de mère en Corée du Sud. Elle a quasiment interprété que ça en 45 ans de carrière. C'est vraiment la figure de la mère là-bas, et là justement elle interprète une mère, qui est jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que tu la sens capable de tout. Elle n'est pas hystérique, enfin même si à un moment donné elle peut s'emporter, mais c'est pas l'hystérie à la le jeu cantonné, hein. C'est vraiment, c'est plus en retenue, tu sens que je pense qu'il va pas falloir la faire chier, mais en même temps c'est une maman de 70 ans, bon, du coup, elle peut pas non plus courser les voleurs en les bastonnant, mais tu sens que elle est capable de tout pour protéger son fils, voilà. Alors, l'enquête commence... le fils, tu prends de sympathie pour lui, il dit tiens. Alors en plus, ce qu'il y a de. Comme il est proche de la débilité, c'est-à-dire qu'il a des pertes de mémoire aussi. C'est-à-dire que dès le départ, le film te montre que c'est lui qui a tous les indices dans sa possession, sauf qu'il a tout oublié. Et en gros, comme il est incapable d'expliquer aux enquêteurs, à la police, à sa mère même, ce qui s'est passé exactement, donc les gens vont essayer de trouver, de déduire à sa place. Et c'est vrai qu'à un moment donné, alors, il retrouve des indices. En essayant de se rappeler, et soit il trouve des indices qui peuvent aider sa mère dans l'enquête, soit il trouve des relents de souvenirs qui remontent à sa petite enfance. Et là, tu te dis, il aime sa mère à la folie, mais à un moment donné, sa mère, elle a été parfois découragée d'avoir un fils un peu autiste, elle a peut-être pas fait que des choses sympas envers lui. Ça rompt un peu l'équilibre dans le film, et c'est vraiment. enfin tu es derrière la mère, mais en même temps tu comprends le fils aussi qui, même s'il est débile, il est pas totalement con non plus. Alors c'est vraiment le tu t'es un peu tu pars sur un truc dans le film et c'est pas du tout le même truc à la fin, quoi. Et c'est vrai que on peut pas trop spoiler non plus, mais
c'est difficile faire une chronique sans spoiler, hein.
Ah ouais, mais là
je me suis fait chier à les écrire mes deux chroniques BD ce matin.
Et alors voilà, alors à un moment donné il y a plusieurs fausses pistes. Alors la mère elle dit c'est peut-être le copain de son fils qui est peut-être derrière l'affaire. Alors elle va commencer à l'espionner, ça va être des fausses pistes. Il y a toute une partie sur l'avocat véreux, parce que elle se dit bon allez, je vais me donner les meilleures chances pour que mon fils soit acquitté, donc je vais prendre l'avocat le plus cher de la ville. Et là, ce qu'il y a de truc génial dans le cinéma coréen, c'est que il y a tous les protagonistes, en fait il n'y en a jamais un qui est infaillible, et à chaque fois c'est des bras cassés qui font les enquêtes. C'est à dire quand c'est pas des policiers qui sont complètement soit demeurés, soit ils sont un peu limités, mais ils mettent du cœur, hein. Genre dans Memories of Murder, c'est un duo de flics dont un qui arrive à la campagne, il arrive de la ville, alors il a pas les clés pour comprendre tout, et puis l'autre il est vraiment de la campagne et puis il connaît rien de son métier de policier. Alors avec leurs moyens limités, ils essaient de mener l'enquête. Dans Host, c'est un père de famille qui se heurte aux autorités pour qui leur met des bâtons dans les roues parce qu'il y a l'épidémie, etc. Et dans ce film, donc c'est la mère qui est un peu limitée aussi. La police, c'est bon, ils ont dit on a clôturé l'enquête. L'avocat, il passe son temps à partouzer avec des nanas, il se fout de la gueule de la mère. Mais vraiment dans des scènes qui s'étirent en longueur, et tu dis la pauvre mère, mais c'est bon, débarrasse-toi de cet avocat de merde, et puis vas-y, fais ton enquête et tout. Mais en même temps, bon, les policiers, ils la connaissent, ils ont un peu de sympathie pour elle, ils veulent pas trop l'empêcher d'enquêter, mais en même temps, bon... Alors voilà, dans tout le film, tu sais pas trop sur quel pied danser, et c'est vraiment très très bien. Ça scie moins les jambes que les deux autres qui étaient vraiment sous tension, où tu étais vraiment un serial killer qui continuait de sévir. Là, le crime est fait, mais tu sais pas qui est le coupable. Ouais. Tu apprends aussi un peu plus sur la nana qui est retrouvée morte. Tu te dis, c'était pas vraiment une nana 100% pure non plus. Alors tu vas une histoire souterraine un peu glauque aussi, tu vas essayer de voir qui c'est qui pouvait lui en vouloir aussi. Alors c'est vraiment super. Mother, moi quand j'y suis allé, je m'attendais à quelque chose de plus glauque que ça. Finalement c'est assez un peu aérien. Le film commence sur la mère qui est dans la campagne au milieu des herbes hautes et qui danse toute seule avec une musique, et ça se finit aussi là-dessus. Tu te dis tiens, c'est un peu surréaliste, mais c'est vraiment, ça joue sur plusieurs tons, et enfin je recommande en tout cas ce film qui est à la fois prenant à cause de la partie thriller, mais aussi qui est touchant parce que c'est l'histoire, voilà, une vieille mère veuve qui essaie de s'en sortir pour essayer de sortir son fils du pétrin. Donc voilà, Mother, le nouveau film de Bong Joon-ho, bon, qui n'est plus à l'affiche, mais
il était sorti le 20, fin janvier, et donc il devrait arriver en DVD a priori en août.
Ouais, cet été en tout cas. Bon, voilà. Si sorti DVD cet été, ça veut dire encore peut-être pas les moyens promo nécessaires pour ce genre de film.
Voilà, et je tiens à rappeler donc que quand Thomas dit qu'il n'est plus programmé, cette information est strictement valable uniquement pour la région de Toulouse à la date exacte du 27 février 2010.
Voilà.
Et oui, c'est très facile quand tu as le net sous les yeux. Donc le triptyque Tokyo, c'était avec Michel Gondry et Léos Carras.
Ah ben c'était Gondry, tiens.
Voilà. Voilà, comme quoi. 12h42. Moi je me fais plaisir. Un petit Masumak, Waira. Oh, Masumak, mais c'est Caribeta qui est le morceau de Kontiki, où elle fait des envolées lyriques absolument fabuleuses. J'adore.
Bah, comme d'habitude.
Enfin, c'est, cette femme est magnifique. Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est, la loi des séries. Alors, t'as vu comment il s'appelait hier, le premier épisode de CSI Miami, nouvelle saison sur la Une ?
Non, parce que...
Naissance d'un mythe ! J'ai vu le titre, je suis parti dans une crise de fou rire. Et là où j'ai regretté, c'est qu'il n'y avait pas la VO pour une fois.
Ouais, mais ça dépend.
On n'a pas pu jouer au Caruso... Ben si, normalement on l'a tout le temps. Et là, on n'a pas pu jouer au Caruso Quiz. Mettez la VO et vous essayez de deviner la fin de la tagline. Et là, ça n'a jamais été David Caruso.
Il a toujours ses lunettes ?
Ah mais justement, tu apprends d'où elles viennent ces lunettes. Elles viennent du Marais parce que c'est un dépanneur automobile qui a trouvé...
Ah, la naissance d'un mythe, c'est avant, c'est ouais, flashback.
Ouais, exactement.
Ah, d'accord.
Non, parce que bon, bah, le vendredi soir... Le vendredi soir, plutôt que de regarder ce genre de série, hein, qui sera de toute façon rediffusée très prochainement...
Ouais, comment tu le sais hein,
Rediffusée. Vas-y, tente toujours de parler.
Non, vaut mieux se regarder des petites choses sympathiques et intéressantes et d'une qualité scénaristique nettement supérieure sur Arte, par exemple, où hier soir, le deuxième épisode de Valander était diffusé. Magnifique, impeccable, une distribution nickel. Coproduction, ça j'en ai pas parlé, c'est une coproduction suédo-britannique, hein. C'est normal, ça se passe en Suède, ça a été tourné en Suède. Alors c'est assez marrant de voir en version originale.
Pas c'est pas vraiment marrant hein, comme principe, attention. Hein, c'est
un de voir une série, de voir une série anglaise, donc, hein, enfin c'est trois téléfilms, donc de voir des téléfilms anglais tournés par des anglais, hein, donc avec des acteurs britanniques, hein, puisque Kenneth Branagh n'est pas anglais.
Ouais, on peut difficilement faire le plus britannique
okay.
Que lui.
Ouais, non, mais bon, c'est un Irlandais, surtout. Ne dis pas qu'il est anglais. Quoi. Ça la foutra vachement mal, hein, quand même. Quoi. Mais dans un pays qui est la Suède, hein, où vraiment il y a tous les. C'est-à-dire, ils sont tous suédois, ils ont des noms suédois.
Et Branagh, la monnaie. Et Branagh, suédois.
Oui, oui, Kurt Wallander, hein, puisque bon, bah c'est.
Et les meubles ne sont pas signés Ikea. Déception.
Pas de marque, pas de marque.
Pratiquement tout. Pratiquement toutes les voitures sont des Volvo. Alors je disais ouais mais bon pourquoi il y a pas de Saab. Et là on me disait que bon bah General Motors est en train de couler Saab.
Bah, ça change des Austin Mini quand c'est les poursuites à Paris. Hein.
Ouais. Bon enfin bref. Pour payer ils payent en couronne suédoise. Enfin bien sûr. Enfin bon voilà il y a un petit décalage comme ça mais qu'on surmonte assez aisément. Alors autant dans le premier téléfilm diffusé vendredi en 8 il y a 8 jours eh bien on a eu du mal à saisir la version originale, bon, sans tout sous-titre bien entendu. Autant hier soir, eh bien, c'était assez compréhensible, hein, c'était vraiment pas mal. D'autant que l'histoire était vraiment très, 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 très sympathique, hein, du côté de ce monsieur Wallander. Alors, le prochain et le troisième et dernier donc, épisode téléfilm de cette série Wallander sera diffusé par Arte vendredi prochain, 20h35. Alors, ça commence très tôt, hein, ne vous loupez pas le début parce que généralement,
c'est à l'heure France Télé.
C'est là qu'il y a les meurtres, c'est là que ça dégomme et tout, et puis c'est là que commence l'enquête. Alors, bon, comme c'est bourré d'indices, comme c'est vraiment une enquête qui participe et du côté physique parce que Wallander dégaine son flingue. Hein, ça arrive, c'est pas un Sherlock Holmes qui ne se sert pratiquement que de son cerveau, encore que on a réussi à démontrer que ce n'était pas vrai en ce qui concerne les différents Sherlock Holmes et le vrai Sherlock Holmes. Là, Wallander, bon, ok, ça dégomme quand même pas mal, hein, par rapport aux flics anglais qui, eux, bon, ben, en principe, n'ont pas le droit de porter de flingue, donc utilisent d'autres méthodes. Et là, ben. Ce qu'on remarque quand même, quoi, c'est que bon, bah, c'est mené de main de maître. Bon, il faut dire que les bouquins en amont de Wallander, toute la série, hein, écrite par Mankell, bon, sont remarquables. Hein, c'est cette espèce de pas de renouveau, mais cette espèce de vague de polar nordique, hein, qui nous a inondé, on va dire, mais bon, bah, sans être péjoratif, depuis pratiquement 15 à 20 ans. Hein, un peu plus longtemps pour ceux qui sont vraiment férus de littérature policière. Mais bon, on remarque que bon, bah, c'est un courant vraiment très important.
C'est le succès
et
du film
de qualité.
C'est le succès du film Insomnie, hein, de toute façon, qui a vraiment drivé tout ça.
Ouais, bon, enfin bon, il y a pas mal de romans qui sont antérieurs. Hein,
oui, bien sûr. Donc, bon, on est d'accord. Mais sur grand et petit écran, ça a été Insomnie, qui ensuite a été remaké par les États-Unis. Ça a pas mal aidé cette ambiance très latente, très. Très brumeuse.
Ben non, justement, contrairement à cette idée reçue, hein, de bon, bah, la Suède, c'est brumeux, il fait froid, et bien non, là, ben, on a de superbes paysages bucoliques, du soleil, la plage, enfin bon, on se dit, ouais, ben bon, c'est sympa la Suède, c'est pas mal, hein, vraiment. Bon, c'est vrai qu'il faut préférer l'été que l'hiver, mais.
Oui,
bon,
c'est clair.
Alors, par contre, Millennium, c'est danois, c'est ça?
Ouais, mais enfin bon, quand je dis polar nordique, hein, je parle des Danois, des Suédois, des Finlandais, enfin bon.
Enfin, ils sont blonds aux yeux bleus quand même, quoi.
Oui, pas tous, quoi.
Ils se lâchent les os.
Pas tous quand même. Là.
Et puis ils font du ski de fond aussi.
Merde, ta gueule!
L'épisode à venir.
Je vais pas spoiler.
Ah, bah ils sont très bons au ski alpin aussi. Et ça ne date pas d'hier.
S'il vous plaît, on spoil là.
L'épisode de vendredi prochain, les morts de la Saint-Jean, hein, 3 cadavres au programme. Du moins au départ.
Du moins au départ.
Au départ, parce que bon, bah, hier, bon, bah, c'est vrai qu'il n'y avait qu'un seul cadavre au départ, mais bon, il y en a d'autres qui sont ajoutés par la suite. Hein, alors, et Kurt Wallander a manqué par deux fois de se faire dégommer, quoi, tu vois. Enfin bon, vous verrez, c'est pas mal. Hein, c'est vraiment, vraiment, l'interprétation est excellente. Hein, ça, il y a pas de doute. Hein, Kenneth Branagh, Ginny Spark, Imi Rosemi, Tom Hiddleston, et tous les autres. Hein, bon, mais ce sont des gueules qu'on connaît. Hein, si on est plus ou moins habitué aux séries britanniques, aux téléfilms britanniques, voire au théâtre britannique, car ben généralement on prend le haut du panier des gens qui sont vraiment rompus à ce genre de trucs et qui sont très très bonnes, très très bons interprètes. Hein, de façon. Wallander, donc c'est sur Arte vendredi prochain à partir de 20h35. C'est le dernier, donc bah, il faudra attendre les rediffs, voir bah, la sortie. Mais quoi que, comme c'est.
Il y a la VOD.
Ouais, non, mais comme c'est une coproduction, je pense qu'on pourra se procurer les DVD du côté de la BBC ou un truc comme ça, quoi, hein, du côté anglais, quoi. Mais bon, ne loupez pas parce que là, vraiment, c'est de la très très bonne télé. Ensuite, ce qui passe, ben. Simultanément, quoi, c'est sur NT1, c'est Generation Kill, donc cette excellente mini-série sympathique. Enfin, je dis mini-série parce que bon, bah, une saison fait 8 épisodes, mais c'est également du haut de gamme. Là, c'est complètement différent. Hein, c'est la vie quotidienne en Irak, vécue par une section de soldats. Et bon, bah, ton documentaire est vraiment très juste. On est dans l'action. On se prend des fois d'empathie pour certains personnages et tout. Ce n'est pas manichéen, c'est ça qui est intéressant justement, quoi. Quoique c'est manichéen quand on rentre dans la peau d'un certain personnage, hein, il y a bien entendu le raciste de service, voire plusieurs. Il y a le type complètement dégoûté de la vie, donc qui va tirer tout, sur tout ce qui bouge. Il y a le jeune puceau dans sa tête et dans sa bite, mais bon, ça c'est son problème, qui lui, bah, débarque et puis bon, se retrouve catapulté à 5000 km de son... De son pays de bouseux natal, et puis bon, on sait pas quoi faire, donc suit les événements plus qu'il n'essaye de diriger sa vie. Mais bon, ça fait partie justement de cette espèce de bonne série, hein, avec une bonne base. C'est tiré du bouquin d'Evan Wright, qui lui, eh ben, est parti en Irak, donc a vécu ce qui est raconté dans Generation Kill, et c'est bien entendu aidé par tous ceux qui mettent en forme cela. Ed Burns qui fait le scénario, David Simon, hein, qui est producteur exécutif et qui est également un petit peu à l'écriture originel. Là, bon, bah, ok, c'est du haut de gamme de toute façon. Alors, le dernier épisode, ça va passer vendredi prochain à 20h35, l'épisode 6 et le 7 de cette série qui en compte 7. Par contre, petite piqûre de rappel, c'est un petit peu con parce que bon, bah, on nous propose de nous rediffuser les trois premiers épisodes mercredi prochain à partir de 22h20, mais l'épisode 4 et l'épisode 5 sont passés à la trappe cette semaine, donc
une diffusion un peu en vrac là, hein.
Voilà, mais bon, par contre, comme bon, bah, le pitch est relativement simple, hein, c'est-à-dire que c'est le début de l'invasion d'Irak, et bon, bah, les soldats, ce qu'ils font, bah, à partir de la ligne frontière, ils vont remonter direction Bagdad pour essayer de dégommer d'abord les gardes républicaines de Saddam, hein, qui sont supposés être les soldats les plus féroces et pratiquement les seuls qui vont essayer de défendre ce qu'il y a à défendre, à savoir le régime de Saddam, qui est en train de se déliter un petit peu, hein, parce que bon, ben, si on se replace historiquement dans le contexte, bon, ben, Saddam n'est plus aidé du tout quand les Américains commencent à dire ok, ben, on va te dégommer, tu as des armes chimiques et tout. Là, l'ensemble de la communauté internationale est pratiquement du côté des États-Unis, avec quelques petites voix discordantes qui disent oui, mais vraiment en fond, en arrière-plan comme ça, histoire de dire oui, mais on n'était pas complètement d'accord au départ. C'est tout, hein, c'est plutôt le côté géopolitique. Mais bon, c'est une série qui marche vraiment très très bien, qui fonctionne, hein, et qui également servie par des acteurs qui savent ce qu'ils font, Alexander Skarsgård, Litter Gessen, pour citer les plus connus, hein. Mais bon, ça vaut son pesant de cacahuètes. Generation Kill, donc c'est sur NT1. Alors, l'épisode 1 à 3, c'est mercredi prochain à 22h20, et les derniers épisodes de cette saison à vendredi prochain à partir de 20h35. Alors, on parlait de CSI. J'ai découvert
que c'était les Who qui avaient fait la chanson de mi-temps lors du Super Bowl, tiens.
Ouais, j'ai vu.
C'est tout... Jerry Bruckheimer qui devait produire la.
Mais j'ai vu tout le truc. J'ai vu tout le concert là. Pendant la mi-temps du Super Bowl, hein, les Who qui nous ont fait un petit medley et tout, quoi. Avec bien sûr Who Are You, évident. Baba O'Reilly, évident. Et quelques autres trucs pas mal, quoi. Enfin bon, c'est bon, bah, y a pas de problème, quoi. Alors, et puis bon, Pete Townshend montre qu'il est encore un très bon guitariste, et ça c'est tout à fait agréable. Enfin bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce petit truc et tout, qui dure 10 minutes, 12 minutes, hein, c'est pendant la mi-temps du Super Bowl. Et là, bon, bah, ok, hein, là ils ont fait les choses très bien. La vidéo est visible sur si vous regardez YouTube ou un truc comme ça et tout, vous le trouvez à l'aise, hein, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même, hein, vraiment, quoi, cette mi-temps des Who. CSI Las Vegas, on en arrive à la 9e saison, c'est demain soir sur TF1, de nouveau prime time, 20h45, et dans cette 9e saison, il va y avoir des changements, parce que, bien, Grissom commence à en avoir ras la casquette. Et il n'a plus besoin de faire l'acteur de toute façon, parce que William Petersen, en tant que producteur exécutif depuis pas mal de saisons, il se fait des pépettes sans avoir besoin de tourner, donc tranquille. Alors officiellement, il dit que il arrête cette série parce qu'il a envie de remonter sur les planches, de faire du théâtre, ce qu'il avait déjà fait durant la saison précédente, où il s'était arrêté. Ils avaient regroupé les séances de tournage pour qu'ils puissent aller faire un petit peu de théâtre, faire une petite tournée. Et là, ça le reprend, mais il n'a plus envie de se mettre sur le devant de la scène.
Grand Dieu, ça le reprend.
Honneur à lui, il va falloir le remplacer. Et qui va le remplacer?
C'est Morpheus.
Morpheus, Larry Fishburne, l'homme que tu vois rigoler bêtement quand il est tout jeune parce qu'il a fumé des joints gros comme
Apocalypse Now.
Dans Au cœur des ténèbres, le tournage d'Apocalypse Now.
Ah mais là il était mince je crois, non?
Ah oui, il était tout fin là, tout fin, c'est celui qui est sur le bateau là, qui tient la grosse mitrailleuse là. Alors demain soir donc,
13h.
Comme généralement il y a toujours en fin de chaque en fin de chaque saison, il y a une espèce de petit cliffhanger qui te dit attends la saison suivante mon gars, parce que c'est pas fini, et qui a quand même une espèce de ligne scénaristique qui veut qu'on suive un petit peu plus les personnages principaux de CSI Las Vegas par rapport aux autres séries, New York ou Miami, où les vies personnelles des gens sont un petit peu moins importantes, font partie du scénario, mais sur 2-3 épisodes, où vont avoir une récurrence, mais 6 ou 7 épisodes après, mais ça va pas durer longtemps. Là, on est quand même un petit peu plus dans la vie des personnages de l'équipe, donc CSI Las Vegas, hein. On se rappelle ce fameux épisode où, par mégarde, en fouillant dans les affaires de William Petersen, on trouve des accessoires un peu sadomaso, puis on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'en saura pas plus, peut-être, on ne sait pas, ça pour l'instant. Là, on va s'attaquer à un autre personnage, un des autres personnages principaux de CSI Las Vegas, il s'agit de Gary Durden, Warwick. Donc, on va commencer par le dernier épisode de la saison 8, Double Fond. Et le premier épisode de la saison 9, ça justement pour Warwick, car il va y avoir une histoire. Et comme TF1, comme d'habitude, ne peut pas rompre avec ses bonnes habitudes, après le premier épisode de la saison 1, on nous passe directement à l'épisode numéro 3. Tu vois, pour justifier cette espèce de programmation sauvage, on va dire oui, mais c'est un épisode qui est moins 12. Alors tu sais, il faut qu'on le passe tard le soir. Tu comprends, parce que sinon c'est pas possible. D'accord, on a compris. Ok, quoi, va te faire foutre. Alors Larry Fishburne n'arrive qu'au 9e épisode de cette saison, donc il va falloir attendre quelques dimanches avant de pouvoir se taper ce nouveau patron du CSI Las Vegas.
Il n'est pas patron d'ailleurs, il commence à la base.
Et il va commencer par être plus ou moins mi-stagiaire, à la limite, c'est-à-dire un mec qui vient pour regarder comment ça se passe et tout, puis l'intégrer et tout, et puis voilà. C'est demain soir donc sur TF1 à partir de 20h45. Sinon, sais-tu que South Park en est déjà à sa 13e saison? Et que il faut chercher très loin pour savoir où regarder South Park en version originale et avec des épisodes inédits, c'est-à-dire la saison 13, c'est sur Game One, vendredi prochain, 20h10, Game One.
Non, celle à 20h10, c'est pas celle en anglais. Ils le font la nuit.
Oui, mais
c'est celle en VF, qui est tout à fait honorable. Et puis Game One, c'est le plaisir aussi des deux coupures pub maintenant.
Cool.
CMTV.
C'est fini complètement pour la 3e saison de KDD, Criminal Dauerdienst, Brigade des criminels, c'est sur Arte, mardi prochain, 22h25. Alors, la 3e saison, on va dire, elle commence sur les chapeaux de roue. Ça pète à fond les manettes, et puis là, ça se délite quand même un petit peu, quoi. Enfin bon, si on est dedans depuis le début, et si on a pris un petit peu si on a appris un petit peu à connaître les différents personnages, les tenants, les aboutissants, ce qui se passe entre eux, leur degré d'interpénétration dans tous les sens du terme, d'ailleurs. on va se dire ok, c'est sympa, ça reste quand même une très très bonne série, hein, mais bon, bah, c'est vrai que du côté de l'action pure et dure, bon, il y en a, hein, c'est vrai, dans KDD, hein, plus que dans les séries françaises, de toute façon, mais bon, c'est un petit peu plus, hein, un ton un petit peu plus léger, on va dire, hein, quoique. Dernier épisode, donc, 8e épisode de cette 3e saison, c'est sur Arte mardi prochain à 22h25, et ça s'appelle Hoffnung.
T'as fini les nouveautés séries ?
Et non, je termine comme d'habitude avec ma série française préférée du jeudi sur TF1 20h45, section de recherche. Rappelle-toi, Xavier Deluc.
Recherche intensément scénariste. Elle est d'Arthur.
Non, mais c'est pas la même. Hein. Attends, section de recherche et RIS, c'est pas la même chose.
Ah bon, ouf.
J'ai mais peur. Non, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir.
Bon, c'est que... Ouais, mais enfin...
Hein,
bon,
là,
c'est...
il s'agit de...
Je m'endors brigade. Devant, hein, je t'avoue.
Il s'agit d'une brigade... C'est la brigade
de gendarmerie.
Criminelle de gendarmerie, on va dire. Hein, c'est-à-dire les, ceux qui s'occupent des gros trucs et tout. C'est situé à Bordeaux, en plus. Souvent, on va dans les Landes. On se retrouve dans les forêts des Landes. Hein, en pays conquis, hein, n'est-ce pas, Thomas ? Et là, eh bien, on a pu voir donc Alexandra Van Der Noot jeudi dernier dans le premier épisode inédit. Là, jeudi prochain, deux épisodes inédits, prise d'otage et millésime meurtrier, avec de nouveau le guest starring de luxe qui tue.
Fais-nous rêver.
De section de recherche, Bernard Montiel. Terrible, ça va être terrible, je le sais. Section de recherche donc sur TF1 jeudi prochain à partir de 20h45.
Merci. Allez, t'as oublié une série qui arrive samedi prochain sur Arte.
Oui, mais samedi prochain, j'en reparlerai samedi.
Oui, mais j'ai le générique sous la main. Donc Les Invincibles, générique interprété par la chanson du dimanche.
À 21h précise, les membres devront opérer simultanément une rupture avec leur copine du moment. Cette rupture se doit d'être sans ambiguïté, sans appel et finale.
Et je vous dis pas, le clip est assez pétard.
Ah, il y a des beaux effets spéciaux.
C'est très inspirant. Enfin bon, vous verrez. Puis la série, la bande-annonce, a l'air assez chouette. Belle prog. Du sport. Lui, il est... Non, il fait...
Ah oui. Vraiment Il veut du... Ouais.
Il veut l'homme le plus chiant à l'harmonie.
Il veut Bobby.
Gypsy gal, the hands of Harlem cannot hold you to its heat. Your temperature is too hot for taming. Your flaming feet are burning up the street. I am homeless, come and take me to the reach of your rattling drums. Let me know, babe, all about my fortune down along my restless palms. Gypsy gal, you got me swallowed. I have fallen far beneath your pearly eyes, so fast and slashing, and your flashing diamond teeth. The night is pitch black, come and make my pale face fit into place, oh please. Let me know, babe, I'm nearly drowning, if it's you my lifeline's trace. I've been wondering all about me ever since I seen you there on the cliffs of your wildcat charms. I'm riding, I know I'm round you, but I don't know where. You have slayed me, you have made me, I got to laugh halfway off my heels. I got to know, babe, oh, will you surround me so I can know if I am really real?
Bob Dylan, Spanish Harlem Incident. Et du sport, il te reste donc une vingtaine de minutes.
Oh bah c'est largement suffisant, tu vois, parce que bon, je me suis limité volontairement à quelques films par jour ce soir.
Ce soir.
Ce soir sur France 3 à 23h15, c'est dans l'air du temps, hein, on en a parlé cette semaine aux infos et tout.
C'est vrai, il y a C'est dans l'air avec Yves Calvi dans le rôle principal.
Non, 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 non.
La libération d'un otage.
Non, non, Hôtel Rwanda ce soir sur France 3 avec pas les excuses. De la contrition, mais pas d'excuses, bande d'enfoirés. Hôtel Rwanda de Terry George, ou une vue extérieure de ce qui s'est passé, hein, de ce qui concernait pas les Américains pour une fois. Et le film est relativement sympathique quand même, avec un bon casting, Don Cheadle, Joaquin Phoenix, Nick Nolte, Sophie Okonedo sur France 4.
Tout le plaisir de la radio et surtout de la radio Mille Vallées,
yeah,
qui a lancé les grands massacres.
France 4, 20h35, Arne, le chevalier du temple de Peter Flint, avec Joachim Nutterquist, Sophia Helin, Bibi Anderson, qui doit jouer le rôle d'une vieille maman certainement, et Vincent Perez. Alors, si vous aimez bien les films avec quelques sabres dedans, eh bien, il y a sur Syfy ce soir, en version originale bien sûr, les aventures de Jack Burton de Carpenter, ouais, Kurt Russell.
Je pense que là les sabres sont un peu au second plan, mais
ouais, ouais, mais bon, il y en a un petit peu quand même.
Il y a des éclairs, des
bouteilles, et il y a du produit dopant après pour faire des triples sauts périlleux, hein,
ouais, ouais. Demain sur Arte, la théma est consacrée aux femmes qui vendent leur corps, et c'est illustré par un excellent film, un film que si on le si sortait maintenant, quoi, il aurait vachement de problèmes. La petite de Louis Malle en 78. Ah oui. Là, il aurait vachement de mal à sortir le film, hein, avec Suzanne Sarandon dans le rôle de la mère Mackerel.
C'est du Brooke pédoterrorisme,
Shields,
ce truc.
Ouais, Brooke Shields, donc dans le rôle principal, Keith Carradine et Guy Les Bons Tuyaux, Antonio Fargas, qui est également présent dans ce film de Louis Malle. Sur RTL9 à 20h35, Outrage de Brian De Palma, avec excellent, hein, très bon film de guerre avec Michael J. Fox. Un de ses premiers rôles, je crois, dramatiques, hein, où il a montré qu'il pouvait pas seulement faire que des films rigolos, genre Retour vers le futur, ou le truc avec l'hôtel là, ou le truc où les médecins docteur je sais pas quoi
ou même pas. Les sketchs du Saturday Night Live hein, où il était habitué hein.
ouais non mais bon bien il y a également Sean Penn, John Leguizamo, enfin bon la distribution est impeccable à 23h35 parce que sur RTL9 donc demain soir à 20h35 c'est Outrage, après il y a un petit peu de catch, c'est normal, on est sur RTL9 et après à 23h35 un bon petit polar de Russell Mulcahy dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça à propos de John Lithgow vu que c'est lui qui joue le rôle du méchant. Ricochet avec Denzel Washington, Ice-T.
Encore une adaptation de BD.
Ouais, Kevin Pollak, Lindsay Wagner. Mais ça vaut le coup, hein, le film est vraiment bien quand même. Quoi. Sur France 4, toujours demain soir, soirée asiatique avec à 20h35 La Légende du Dragon Rouge de Wong Jing et Corey Yun avec Jet Li. Pas
moyen,
mal,
moyen,
bon,
moyen.
Sans plus, quoi. Damien Lowe, Corey Yuen. Et à 22h, Seven Swords de Choi Ark.
C'est mieux.
Donnie Yen, Charlie Young, Leon Lai.
Points,
ça va, ça dépote. Demain, toujours sur Paris 1ère à 20h35. Celui-là est pas mal. Sherlock Holmes attaque l'Orient Express d'Herbert Ross en 76 avec Nicole Williamson dans le rôle titre. Alan Arkin qui joue le rôle de Watson. Il y a également Robert Duval, Vanessa Redgrave, Laurence Olivier, où c'est la rencontre de Sherlock Holmes avec Sigmund Freud et tout. Bon, je vous dis que ça, mais bon, c'est vraiment pas mal. C'est bien foutu. Ça vaut le coup. Sur NT1, Tombstone. Un excellent western de Cosmatos avec Kurt Russell, Val Kilmer, Michael Biehn, Powers Booth, James Elliott, Sam Elliott, ça dépote.
C'est pas trop casting de western, mais ça le fait.
Non, mais ça le fait.
Justement, dit comme ça, les noms d'acteurs, on a du mal à se rendre compte, mais ça déchire.
Ah ouais, non, mais ça déchire. En plus, Kurt Russell, il porte très bien la moustache, je trouve, hein, y a pas de problème.
Et voilà, déjà, on vous donne envie là.
C'est la relecture en fait hein, du règlement de compte à OK Corral, hein, de toute façon, c'est la même chose.
C'est
Val Kilmer. Meurt en Doc Holliday, très bien.
Ouais,
Tombstone,
non,
très c'est bien. La ville qui est à côté, voilà.
Alors, sur la chaîne Action demain soir, Time and Tide, le Choi Ark,
qui
est sympa.
Très bien.
Quoi. Je dirais pas énorme.
T'as le gunfight en rappel dans les HLM ouais. Là-bas, c'est énorme.
Oui, mais bon, il y a... Il y a des faiblesses.
C'est pas le meilleur. Mais
non, c'est pas le meilleur, quoi. Mais bon, hein, mais Nixé est très bien là, quoi. Moi, je trouve que Nixé là, il fait très fort, quoi, quand même, quoi.
C'est lui qui a arrêté sa carrière depuis, non ?
Oui. Ouais. lundi, TMC nous fait un spécial Steven Seagal. Avec tout d'abord un bon Steven Seagal de la bonne époque, Justice Sauvage, John Flynn, peut-être le plus violent hein, de tous ceux qu'il ait fait. Hein, c'est là où il dégomme du dreadlocks à fond les manettes.
Hein. Oui, Justice Sauvage, c'est celui-là où ça se passe juste pendant une nuit.
À New York.
Pendant une nuit où il dit à la police « Non, ça va faire, je vais faire la boucherie, vous occupez pas.
» Ouais, il y a Jerry Orbach, William Forsythe, ça dépote. Et après, bon, bah, là, c'est dispensable. À minuit 10, l'affaire Van Aken de Michael Oblowitz en 2003. Là, bon, bah, ok, hein, on va un peu laisser tomber. Lundi, toujours, sur Cinéma Classique, un très bon polar de Henry Hathaway en 48, appelé Nord 777. Qui est la traduction littérale de Call North Line 777 avec James Stewart, Richard Conte, Luigi Cobb et Helen Walters. Et là, je cite ce film parce qu'il y a Richard Conte dedans. C'est certainement un des acteurs qui a été les plus sous-estimés de cette époque-là. Richard Conte, né en 1910, mort en 1975, qui commence sa carrière au début des années 40. En 45, A Walk in the Sun, Le Commando de la Mort de Lewis Milestone. En 1946, Somewhere in the Dark de Joseph Mankiewicz. La même année, 13 rue Madeleine avec James Cagney de Henry Hathaway. En 1948, l'excellent Cry of the City, traduit La Proie en français, Laisse tomber, de Robert Siodmak. En 1949, House of the Strangers de Mankiewicz. En 1949 encore, Whirlpool. Le mystérieux docteur Corvo avec la magnifique Jane Tierney d'Otto Preminger. En 52, le Blue Gardenia de Fritz Lang. En 60, il est dans Ocean's Eleven, l'original de Lewis Milestone. Il est également dans un film un peu plus dispensable, le plus grand cirque du monde avec l'autre connard de la NRA, Charlton Heston, dans le rôle principal. Encore un film d'Henry Hathaway. En 67, Tony Rome est dangereux. Hein, de Tony Rome, c'est Frank Sinatra. Il est également de la distribution du Parrain de Coppola et il termine sa carrière. Eh bien, comme c'est un acteur qui a toujours été pris parce que bon, bah, au départ, il a de descendance italienne et tout, donc on l'a toujours pris pour faire des rôles de mafieux, des rôles d'italiens, de brins ténébreux, de trucs comme ça. Et donc, il va terminer sa carrière dans des nanars complètement improbables en Italie, hein, des séries Z, mais alors vraiment des trucs. Un de ses derniers films, c'est Bacchanal Infernal en 75, il est mort en 75, de Panaccio, mais il joue également au début de sa carrière, on va dire, entre guillemets, italienne, dans le Big Guns de Dulcio Tessari, qui est un bon western spaghetti. C'est déjà la fin des western spaghetti, mais là encore, ce Big Guns est pas mal et assez sympathique. Enfin, tout ça pour vous dire que Richard Conte, vraiment, si vous avez l'occasion de tomber sur un film avec ce type dedans, dont celui-là, hein, appelé Nord 777, c'est un très bon polar, hein, vraiment très bon polar. Hein, ou alors le Cry in the City, qui est aussi un des très bons polars de cette période-là. Donc, Call North 777 sur Ciné Cinéma Classique, lundi à 20h40. Sur CineFX, justement, on parlait de série Z italienne. À lundi à 21h 2019 après la chute de New York de Sergio Martino, celui-là il est magnifique, très bon. Ça vaut son pesant de cacahuète, hein, y a pas de problème.
Rien que l'affiche, on se demande mais que foutent les zombies là.
Ouais, enfin, mais bon.
il est parmi le top de Nanarland, enfin le top. L'inverse.
Ouais, non, mais il est pas mal, quoi. Il est bien placé. Mais c'est pas le seul de Sergio Martino, hein, d'ailleurs.
Oui, non, mais Martino, lui.
Ouf. Oui, c'est un spécialiste, hein, de toute façon.
Non, c'est pas un spécialiste, hein. C'est un habitué.
Mardi sur Comédie, soirée Tom Hanks avec à 20h40 Big de Penny Marshall avec Tom Hanks et Elizabeth Perkins. Et à 22h35, un film sympathique de Tom Hanks. Comme quoi, Tom Hanks, il a commencé sa carrière par faire ce genre de films, hein, avant de jouer dans des trucs sérieux qui l'ont rapporté des Oscars, tu vois, genre Forrest Gump, Philadelphia, des trucs comme ça. Bah moi, c'était plutôt des trucs...
Splash.
Non, et encore Splash, c'est pas mal, c'est sympa, quoi. L'idée est intéressante, mais là, Turner and Hooch,
ah oui, bah
de Roger Spottiswoode.
J'ai juste dit avec celui-là.
Avec Jim McIntyre et Craig T. Nelson. Allez, vas-y. Ce mardi, sur Ciné-Cinéma Classique, à 20h40, La Charge de la 8e Brigade de Raoul Walsh, c'est son dernier film en 64 avec Troy Donahue et Suzanne Pleshette. Ou alors mardi encore sur Polar à 21h, le premier d'une série où il y en a 4, il me semble, Matt Helm, agent très spécial de Phil Carlson, avec Dean Martin, bien sûr, dans le rôle titre, Stella Stevens et Dahlia Lavie. Mercredi sur RTL9, soirée spéciale mais qui n'a aucun intérêt parce que c'est en version française. Tout d'abord à 20h35 Borat, puis à 22h05 Ali G, mais en version française, on se demande.
Quoi,
ça tombe à poil.
On se demande, bon bah ok, tant pis cool, quoi.
Hein. Ali G, mais... quand j'ai emprunté le DVD, c'est là que je me suis rendu compte que la bande son c'était Adam F.
Oui, entre autres.
Enfin, la prog musicale est à tomber. Ouais, alors que Ali G, comme ça, tu vois la bande annonce, tu dis.
Non, mais je te le prêterai le CD si tu veux. sur Paris Première mercredi prochain à 22h30. Alors il faut dire que cette semaine, comme mercredi va sortir le film Nine, encore une comédie musicale, oui, avec entre autres Penélope Cruz dans le rôle principal.
Daniel Day-Lewis.
Ouais, et Marion Cotillard. C'est une semaine Penélope Cruz sur Paris Première.
Ouais.
Donc c'est elle qui fait plus ou moins la programmation, hein, et donc mardi, mercredi prochain.
C'est elle qui fait la prog.
Enfin, c'est elle qui propose des films qu'elle aime bien ou voir des films dans lesquels elle a tourné. Et là, c'est Paris Première vous propose mercredi prochain un des films qu'il a révélé. Enfin, soi-disant, bon, qu'il a révélé, bon, pas sur le plan de jeu d'acteur, on va dire.
Oui, Ramon, tu peux le dire.
Voilà, sur la plastique, hein, de Bigas Luna avec Stefana Sandrelli, Anna Galgiana, qui, moi, je préfère à Penélope Cruz. Franchement, quoi. Hein, mais ça, c'est une question de goût. Et celui qui est devenu son mari, il n'y a pas si longtemps que ça, Javier.
Ah bon, ils sont...
Oui, ils se sont mariés, là, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques mois, là.
Ah ben, comme quoi, tu vois.
Eh ouais.
Ouais, je pense que passer de Javier à Tom Cruise, puis à Javier, c'est mieux.
Ouais, non, mais bon... sur Sifi, mercredi prochain, 20h45, Aeon Flux de Karine Kusama, qui n'est pas une réussite, avec encore Sophie Okonedo. et Charlize Theron, entre autres, et mercredi prochain sur Polar également, un petit polar italien sympathique de Giuliano Montaldo. Les Intouchables avec John Cassavetes, Gina Rowlands, Britt Ekland et Peter Falk, c'était quand il fallait gagner ses pépettes. Tu vois, ben on allait en Italie comme ça, faire des petits rôles, et puis bon, ça marchait pas mal. Jeudi, sur Paris Première, et ça c'est un film qui a été programmé par Penélope Cruz, Gone with the Wind, de Victor Fleming. Autant on emporte le vent. Victor Fleming, né en 1883, mort en 1949. Victor Fleming qui a pas fait beaucoup de bons films, on va dire, hein, dans sa filmographie quand même assez importante, mais qui a sorti quand même deux chefs-d'œuvre la même année. Gone with the Wind, Autant en emporte le vent, multi-oscarisé, et Le Magicien d'Oz. Mais il faut dire que pour Autant en emporte le vent, sa participation est sujette à caution, car il avait également des assistants qui ont grandement aidé à tourner pas mal de scènes, dont George Cukor, entre autres, hein, bon, pas des moindres, quoi, donc ça minimise un petit peu ça.
Le vrai rôle, justement, du réalisateur.
Voilà, mais c'est quand même lui qui a chopé la statuette, tu vois, quoi, ça, y a pas de problème. Mais il a quand même fait plusieurs films avec Gene Harlow, d'ailleurs, hein, dont le Red Dust, La Belle de Saigon en 32, ou Bombshell en 33, ou Reckless, Imprudente Jeunesse en 35, toujours avec Gene Harlow. Il a fait un bon Dr. Jekyll en Mr. Hyde en 41, et surtout un Jeanne d'Arc en 48 avec Ingrid Bergman dans le rôle de Jeanne d'Arc, qui l'a valu à Ingrid Bergman, pas à Victor Fleming, mais alors des critiques, mais ça l'a carrément descendu. Elle a fait une dépression, enfin bon, c'était vraiment le moment le plus dur de la carrière d'Ingrid Bergman. C'est après justement cette interprétation de Jeanne d'Arc en 48 du film de Victor Fleming. Bon, c'est sur Paris Première, donc je rappelle, hein, c'est Autant n'importe le vent. Alors le film il dure 3h45, ouais, c'est l'épopée, le sud flamboyant et tout, flamboyant c'est le cas de le dire d'ailleurs, hein, la fameuse scène où tout crame. C'est à 20h35. Jeudi prochain également sur Direct 8, alors ça c'est pour ceux qui l'ont pas encore vu, ils repassent, alors profitez-en parce que ça c'est le casting le plus improbable du monde, et puis le film est quand même rigolo, quoi. Un génie, deux associés, une cloche, de Damiano Damiani en 75 avec Terence Hill, Robert Charlebois, Miu Miu, Patrick McGowan et Klaus Kinski dans le même film. Tu peux y aller, ça vaut le coup.
C'est de l'hétérogène, on va dire.
Ah oui, oui, oui.
Bah, de toute façon, le film est aussi hétérogène que son titre.
Hein. Oui, oui, c'est-à-dire que bon, ça part sur un truc au début, et puis au fur et à mesure, bah, tu te dis, ouais, mais on va où là, quoi ? C'est quoi ce truc ? On ne sait pas s'il y avait un scénario au départ, ou s'il a été écrit, enfin, griffonné sur une feuille de papier au fur et à mesure du tournage, quoi, tu vois, quoi, parce que bon. Mais c'est pas mal, hein. Bon, on s'amuse quand même assez bien, quoi, dans ce film. Sinon, sur 13ème rue, jeudi prochain, bah, c'est la suite. On a vu les deux premiers jeudi dernier. Là, c'est Aigle de Fer 3. Celui-là, il est de John Glenn en 92, ouais. Avec Lou Gossett, Sonny Chiba, c'est celui où il y a Sonny Chiba dedans, et Horst Buchholz. Il est moyen, on va dire. Hein, le premier restant le meilleur, celui de Sidney G. Fury. Hein, on a jeté un petit coup d'œil là, jeudi dernier, quoi, mais bon, ça n'a pas l'air. Non.
Ouais, bon, non, mais bon. C'est comme les 12 salopards avec tous ces remakes et même deux séries télé.
Mais
par
non,
la
mais
suite,
là, c'est les originaux. Là, l'aigle de fer, hein, c'est bien. Et sinon, jeudi prochain également sur Action à 20h40, Joint Security Area de Park Chan-wook en 2000 avec Lee Young-hae, Lee Byung-hun et Song Kang-ho.
T'as dit que c'était quand
Jeudi prochain sur la chaîne Action à 20h40.
Ouais. Ouais, je vais vous donner des. Enfin, on va se prendre des cours de coréen là.
Allez, on termine avec.
Ouais, 13h27.
Ouais, vendredi sur RTL9, Break. Down, Point de rupture de Jonathan Mostow, que j'avais dit la semaine dernière, qui est pas mal, qui est sympa, quoi, vraiment, avec Kurt Russell, J.T. Walsh, Jack Nosworthy et Kathleen Quinlan. Enfin, elle, on l'a pas beaucoup, puisque c'est elle qui se fait kidnapper au début, quoi. Ah, bon, d'accord, ok.
Ah oui, c'est vrai, non, ça spoil pas, puisque c'est au début, ouais.
Bah non, c'est au début, elle se fait kidnapper, quoi. Donc on la voit pas, quoi. Il la cherche tout le long du film, il la cherche, quoi. Sur Sci-Fi, Prisonnier du temps à 20h45 de Richard Donner, d'après un roman de Michael Crichton avec Paul Walker. Yeah! Anna Friel, Frances O'Connor et Gérard Leonidas Butler. Mais enfin, c'est une bouse. cinéma frisson vendredi prochain à 21h. True Romance de Tony Scott. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas revu ce film-là, qui est vraiment excellent. Un scénario de Tarantino et de Roger Avary, avec Christian Slater, Patricia Arquette, Gary Oldman, Brad Pitt, qui est bien là-dedans, en plus, quoi. Bon. C'est sympathique, quoi.
Cinéma Club. Il y a un bis-bis entre Avary et Tarantino, hein, sur l'écriture du scénario.
Ouais, ouais, été... mais bon.
Enfin bon,
ouais,
c'est pas trop bon. Qui a fait quoi.
Ouais, ouais, mais bon, hein, ok. Hein, ça, c'est des histoires de pognon, ça. Hein. Ciné Cinéma Club vendredi prochain, I'm Not There à 21h. Et c'est pour ça qu'on a écouté du Dylan avant. C'est le film de Todd Haynes avec les différentes interprétations de Dylan, de Christian Bale, Cat Blanchett, Richard Gere et Heath Ledger. Et c'est suivi, c'est une soirée Dylan à 23h15 du l'excellent documentaire de D.A. Pennebaker en 67, Don't Look Back, qui suit toute la tournée anglaise de Dylan en 65. Et c'est une période charnière dans la carrière de Dylan. C'est le moment où ben, il laisse tomber la gratte sèche et il passe à la gratte électrique. Les fameux moments où on l'accuse d'être un Judas qui trahit la musique folk parce que bon, il fait une première partie avec ses morceaux comme celui qu'on a écouté avant. Et deuxième partie, t'as un groupe de rock qui rentre derrière et tout, et lui qui prend sa télécaster, qui branche le truc et allez vas-y quoi, que je te joue presque du rock quoi, tu vois. Et bon bah les gens ont pas du tout apprécié, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque et tout. Et là bon bah Pennebaker qui a fait d'autres documentaires sur le milieu de la musique qui est vraiment très bien, lui il rentre carrément partout, genre dans les coulisses et tout, tu vois tout. Et puis bon, comme c'était la tournée où il y avait également Joan Baez qui était plus ou moins sa petite copine à l'époque et tout, on apprend beaucoup de choses hein, sur ces espèces de liaisons et sur le personnage vachement controversé de Dylan et ce qu'il était à l'époque hein, d'ailleurs hein, assez péteux quand même comme mec quoi. Sur TCM, un autre chef-d'œuvre du cinéma à 20h40, Géant de George Stevens en 56 avec James Dean. Moi je dis personnellement que c'est le meilleur film de James Dean hein, mais bon ok, les autres seront pas d'accord. Il y a Liz Taylor également, Rock Hudson,
c'est Carole pas personnel Baker, c'est aussi mon avis, je trouve que c'est là où il éclate vraiment.
Et Dennis Hopper, eh ben, c'est son dernier aussi. Et Dennis Hopper également hein, dans ce film qui est bon, c'est du Dallas, mais c'est tourné dans les années 50, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment comme Dallas, c'est pareil. Hein, c'est une famille qui s'entre-déchire avec les employés. James Dean est l'employé qui va trouver du pétrole sur sa parcelle et tout. Donc il va tous les envoyer chier. Enfin bon, c'est magnifique, c'est grand, c'est beau, c'est impeccable. C'est sur TCM, donc vendredi prochain à 20h40. Et c'est suivi à 23h50 d'un autre excellent film qui est un des meilleurs films sur la boxe. Vachement meilleur que Raging Bull de toute façon, hein, marqué par la haine de Robert Wise en 56, avec Paul Newman, Pierre Angeli, Sal Mineo, Everett Sloan, qui raconte en fait la vie de Rocky Graziano. Alors George Stevens, lui, bah...
C'est un rapport avec le Rocky Tu penses qu'il y a une inspiration justement?
Non, non, non.
Non, d'accord.
Non, parce que bon, Rocky Graziano au départ c'était un truand, un petit délinquant qui bon bah a trouvé un petit chemin de traverse et tout par la boxe. Enfin, c'est très bien foutu quoi dans ce film là. Bon, quoi que ce soit, c'est romancé quand même. Hein. George Stevens, donc j'y reviens un petit peu, à ne pas confondre avec Leslie Stevens, Mark Stevens ou Robert Stevens qui est également réalisateur américain. George Stevens qui.
T'as pas besoin de la page désambulation de la Wikipédia, t'as du sport.
Qui est né en 1904, mort en 1976, qui a commencé sa carrière comme coureur automobile au début du siècle dernier, puis qui a été opérateur pour Hall, c'est-à-dire les Laurel et Hardy, hein, et qui a fait quand même quelques petits films sympathiques. Hein. Bon, c'est pas un grand réalisateur. Il nous a quand même fait Gunga Din en 39, Talk of the Town, qui est pas mal, en 42, La Justice des Hommes, Place in the Sun, qui est peut-être son meilleur film avec Géant, avec Monty Clift, Liz Taylor et Shelley Winters. Shane traduit L'Homme des Vallées Perdues avec Alan Ladd et Jack Palance, qui est un bon western et qui a fait également Le Journal d'Anne Frank en 59 avec entre autres Maximilian Chen. Voilà donc pour George Stevens. Donc je rappelle, c'est sur TCM vendredi prochain à 20h40, Géant de George Stevens avec James Dean et toute la clique. Enfin bon, rien à dire de plus.
Et il est en train de tasser professionnellement ses feuilles. Nous, on va faire de même. Thomas, s'il te plaît, tu sais qu'il y en a qui nous écoutent en FM, voire sur le stream, un peu partout dans le monde. Est-ce que tu peux leur faire un résumé? Parce qu'il y en a, tu sais, ils arrivent en cours de milieu d'émission, voire même en studio.
Ouais, pas de soucis. Alors, on a eu les prévisions météo des Césars 2010, des parties génitales à la télé, du post-apo dans un village, de la zig dans un village avec un prisonnier, du vieux qui fait un rond dans un village aussi, du rough, de la maman qui a pas coupé le cordon, du suédois et des couronnes avec trois cadavres en prévision du ou et du yeah. Le retour de Berlin Brigade Criminelle, une autre Brigade Criminelle avec Bernard Montiel, des interpénétrations du Jack Burton moustachu, du Tom Hanks pré-Oscar, du Bob Dylan qui était assez péteux et du James Dean éclaté.
Oh là 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 là, non d'une médaille en chocolat, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée et au podcast, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, retrouver nos chroniques écrites, fouiller dans nos archives. Alors par exemple, cette semaine, justement, j'étais dessus, ça va de la chronique de Havre, justement, que Thomas a faite, un pays dans l'aube. Non, ça c'est une chronique romande du sport qu'il a pas fait. Lorsque nous vivons ensemble, Sherlock Holmes, un sujet sur le banjo, tiens, et donc... le prévisionnel des Césars. Vous avez aussi le Facebook de l'émission. Vous allez dans suppléantweekend.fr, c'est dans le club des auditeurs, et dans plein d'autres choses. N'hésitez pas, il suffit d'aller justement sur suppléantweekend.fr. Vous écoutez FM sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue 24-24 sur radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, c'est en 6 lettres. RVBD N7, le rendez-vous bande dessinée de l'N7. On aura le programme complet, ça aura lieu dans 15 jours. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye! Et de suite en direct de Vancouver, du sport. Qu'est-ce que tu fais derrière moi? T'es pas à Vancouver? Ah ben, c'est pour ça qu'on installe le fond bleu, d'accord, ok.
De gamme et de rengaine, j'ai fait naître une flamme, une étincelle sur mon domaine.